Oui.
Oui.
Dis-moi, par où y dire ? La terre est noire lorsque le volcan n'est pas loin, la terre est pauvre, très pauvre, et les jeunes femmes comme Adia n'ont que les mots pour vivre et dire leurs désirs. Jean-Marc Turine a été professeur de français à Anjouan. Il y a rencontré Adia quand elle était enfant et sa famille. Il ne l'a jamais quittée, lui a écrit, et là pour la première fois, il retourne à Anjouan pour y rencontrer la jeune Adia devenue adulte. Adia d'Anjouan, de Jean-Marc Turine.
Adia d'Anjouan. Par Jean-Marc Turine. D'abord les couleurs, les bleus, les verts, les gris anthracite, le bleu de l'océan dans la confusion horizontale du bleu du ciel, les verts des arbres et des plantes, dans le hasard de la luxuriance naturelle, les gris des rochers et du sable à la jonction des deux autres. Ensuite les sons, les vagues infatigables sur le sable et les galets, les voix criardes au débit rapide. Des voix qui à distance s'interpellent, les coups de klaxon dans les villes et les campagnes, les moteurs poussés à fond. Les radios gueulardent au son de métal. Enfin, la chaleur. Levée entre les hommes et la nature, humide, constante et étouffante. Fardeau qui ralentit l'effort et contraint le corps à l'économie du geste ou le réduit au déplacement nécessaire. Voilà mon arrivée à Ouani, l'aéroport d'Anjouan, île Comores. Une date, le 29 novembre 1980. Adia, nous sommes à Domani, Anjouan, une des îles des Comores, janvier 2006. La dernière fois que je t'ai vu, c'était en août 81. On ne s'est jamais quitté. D'une certaine façon, ma famille est ta famille. Mais avant de parler de ça, je voudrais que tu présentes la tienne.
J'ai ma mère et mon père qui est décédé en 96. Et maintenant, j'ai ma mère et trois frères et deux sœurs et un neveu à la maison.
Raconte-moi l'histoire de cette famille qui est... Vous êtes tous les six enfants, vous êtes nés à Madagascar. Je voudrais que tu m'expliques en quelle année vous êtes arrivés ici, pourquoi tes parents étaient à Madagascar et pourquoi, au final, vous êtes arrivés à Anjouan.
L'année qu'on est arrivé ici, je ne m'en souviens pas très bien. Mais mon père était allé à Madagascar pour avoir une vie stable. Et ma mère, elle est née là-bas. Alors c'est là-bas où ils se sont rencontrés avec ma mère. Ma mère n'est pas d'origine malgache. Elle est seulement née là-bas. Mais son père et sa mère sont d'origine comorienne.
Mais qu'est-ce qui les a décidés à revenir en jouant ?
C'était à cause de la guerre, bien sûr. La guerre entre les Comoriens et les Malgachiens. Et c'est ça la raison pour laquelle ils sont venus ici.
Tu fais référence à ce qui s'est passé à Majenga. Et les Anjouanais ont été rapatriés, ou les Comoriens ont été rapatriés de Majenga à Anjouan.
Mon père, il était jardinier. Au lycée de Domoni en juin.
J'en reviens à 1980-81, lorsque j'étais prof ici à Domoni. Il y avait une petite cité occupée par des expatriés français, belges, il y avait un Canadien, il y avait deux Irlandaises. Et vous habitiez dans une paillote au bout du chemin, de notre chemin. C'est comme ça que mes enfants, Loïc et Gaël, ont rencontré tes frères, dont Atouman, Marouf.
On était presque voisins-voisines, quoi. Mais oui, j'étais encore toute petite. Et on n'avait pas effectivement des voisins, surtout des voisins comoriens. On n'avait que des voisins blancs. C'est à partir de là qu'on a pu construire une vraie relation, quoi. Et parce que depuis ce temps-là, Ils nous ont jamais oubliés. Mais ce qui me reste comme souvenir, c'est que mes deux frères, Marouf et Atouman, bien sûr, que Loïc et Gaël, ils se promenaient beaucoup. D'ailleurs, mes frères, on les voyait presque jamais dans la journée. Ils faisaient comme...
Je vais essayer de t'aider. Des souvenirs de toi, c'était... Tu venais à la maison, il y avait des feuilles, il y avait des feutres, des crayons de couleur et tu dessinais beaucoup. Atouman était le gardien, le protecteur de Loïc. Atouman a 4 ans, 4 ans et demi de plus que Loïc. Donc il avait 14 ans et Loïc 10. Marouf avait l'âge de Gaël, c'est-à-dire 8 ans. Ils jouaient au football, ils allaient chasser les roussettes. Et c'est vrai qu'ils étaient tout le temps ensemble. On allait à la plage, ils étaient là. Je ne suis pas sûr que tu venais souvent à la plage avec nous. J'ai un peu oublié ça.
À la plage, je venais pas souvent.
Oui, c'est vrai que c'est un phénomène un peu curieux, cette relation à ta famille, puisque pour nous, c'était la première expérience africaine. Ça a été la découverte d'une injustice globale, comme ça, entre des gens moyennement riches et des gens très pauvres. C'est la première fois que nous étions confrontés à cette situation. Et donc, rentré à Bruxelles, je me souviens de lettres de Marouf. Je me souviens de son désir d'étudier et du tien.
J'ai fait l'école française et l'école coranique. J'allais à l'école coranique une semaine le matin, une autre semaine dans l'après-midi. Et la semaine que j'allais aux après-midi, j'allais le matin à l'école coranique, alors que j'étais toute petite. Attends que je réfléchisse.
Marouf a terminé le bac en 97. Et toi, en quelle année l'as-tu obtenu ton bac?
Moi, j'ai obtenu le mien en 2003. C'est ça, oui.
Là, je donne une petite explication. C'est que durant toutes ces années 90, il y a eu ce qu'on appelle des années blanches au lycée, c'est-à-dire que les examens, on ne les présentait pas parce que les profs, faute d'être payés, ne faisaient la grève ou n'assumaient pas leurs cours, ni leurs prestations au moment des examens. Tous les étudiants du lycée ont perdu 1, 2, voire 3 années parfois. Tu étais dans ce cas-là?
Oui, exactement, oui. Mais moi, j'ai fait quelques années blanches. Par exemple, quand j'étais en 6e, j'ai fait 2 6e. Parce qu'il n'y avait pas eu de passage. J'ai fait 2 4e. Parce que oui, il n'y avait pas aussi de passage. C'était l'année blanche. Je crois que c'est pourquoi j'ai... Comment dire, ça ne vient pas...
mi-novembre 97 jusqu'à la mi-janvier 98, je suis revenu aux Comores. Je devais venir ici, mais il y avait eu les événements d'Anjouan, ce mouvement indépendantiste et rattachiste à la France. Donc l'île était bouclée, elle était sous embargo, on ne pouvait pas y arriver. Mais Marouf a pu me rejoindre à Moroni, donc la capitale. Est-ce que, pour toi, le départ de Marouf en France après ça, est-ce que ça a provoqué chez toi la volonté de vouloir aussi obtenir le bac? Est-ce que ça t'a incité?
Bien sûr que oui, parce que je voulais faire ainsi. Je voulais aussi obtenir mon bac et peut-être avoir la chance aussi de faire comme lui et partir aussi en France, par exemple, pourquoi pas. Et c'est vrai, j'ai pu faire tout mon possible pour l'avoir quand même. Trop tard, oui, mais quand même, je l'ai eu.
Trop tard ou très tard?
Très tard. Oui, excusez-moi.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu pourrais prolonger tes études à l'université d'Anjouan?
Mais oui, je pourrais faire ça, oui. Mais le problème, c'est que je pense pas que j'y arriverai. Parce que j'ai souvent des maux de tête. Des maux de tête qui ne cessent pas de... En fait, j'ai tout le temps mal à la tête. Et comme ça, je crois que avec ça, je peux pas, j'arriverai pas à continuer des études normalement. Et pourtant, j'aimerais bien, mais en toute honnêteté, je ne sais pas comment pouvoir faire, parce que il faut d'abord que les maux de tête disparaissent complètement pour que je puisse me concentrer. Car si je me concentre sur quelque chose, déjà là, j'ai mal à la tête. Et comme ça, pour les études, je ne pense pas que ça pourrait se faire comme ça.
On revient à notre petite histoire entre 1981 et 1997, j'avais des nouvelles de toi, mais j'avais surtout des nouvelles de Marouf, qui écrivait, qui envoyait des petits mots en disant que voilà, il passait telle année, qu'il était... J'ai l'impression que, de ta part, à partir de 98, c'est-à-dire après mon séjour aux Comores, c'est là que je me souviens que tu m'avais envoyé un fax à Paris. Et qu'à partir de ce moment-là, on s'est souvent écrit, souvent téléphoné.
Ben, c'est tout simplement parce que je voulais qu'on garde... des contacts et que je puisse te dire de tout, quoi, à propos de moi et à la famille. Ouais, je crois que c'est ça, ouais.
Le départ de Marouf, ça a été un peu douloureux pour vous, pour ta maman, pour toi?
Non, pas du tout, au contraire. Parce que jamais on aurait cru que ça allait arriver un jour, quoi. Parce que ici, ça n'arrive qu'aux riches. De partir en France. Alors, on était très contents.
On s'est beaucoup parlé au téléphone.
Oui. On s'est beaucoup parlé, oui. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, je crois que c'est ce que je voulais vraiment. Tu m'as montré que je peux te faire confiance. Alors que ici, y a vraiment pas, j'ai vraiment pas une personne que je peux tout dire, quoi, tout faire sortir, c'est-à-dire faire sortir tout ce que j'ai dans mon cœur, quoi. Et c'est parce que ça me fait vraiment plaisir de pouvoir rester en contact.
Je t'ai demandé un jour si tu avais un ami, si tu étais amoureuse, etc. Et tu m'as dit, je ne veux pas me marier.
Oui, c'est vrai. Mais c'est parce que les hommes, je ne sais pas, tous les hommes, je peux dire ça, ce sont vraiment des... comment dois-je dire? Je ne peux pas avoir confiance à un homme. J'avais déjà un ami. Au départ, c'était le paradis. Mais après, c'était le catastrophe. Et après, ce n'est pas seulement moi, mais je vois aussi des amis qui ont subi le même conséquence. Et surtout ceux qui sont mariés. Ça me donne pas l'envie de me marier. En tout cas, pas maintenant. Au moins, je me suis dit que je peux me marier, mais c'est quand je serai indépendante. Comme ça, je peux le faire. Mais je veux pas me marier avec un homme alors que je veux pas me dépendre de lui. Car si je fais ça, c'est là où... Il pourra me faire ce qu'il veut parce qu'il se dit des fois Oh, c'est lui le mari, c'est lui qui paye tout, c'est lui qui fait tout, il donne à manger, il fait tout. Alors là, il se permet en ce moment, il se permet de te faire du mal. Alors moi, personnellement, je crois pas que moi je peux pas le faire maintenant. Il faut d'abord que je sois indépendante. Après, comme ça, je sais que si je me marie un jour, et si le mari me fait des choses qui ne me plaisent pas, je peux lui dire de s'en aller. Et après, encore, si on a des enfants surtout, on sera obligé de se taire malgré tout ce qu'on endure à cause de l'enfant. Parce que si on n'a rien, par exemple, on n'a rien, on dépend du mari, on ne peut pas le chasser malgré qu'il te fait endurer à cause du bébé, parce que comme ça, celui qui va beaucoup en souffrir, c'est le petit. Mais si on est indépendant, comme ça, on peut dire, on ne peut pas continuer, hein, tu peux t'en aller. Hein, et comme ça, moi, je peux élever mon enfant seul, sans ton aide. Parce que si on chasse un mari, ce qu'il fait pour te punir de plus, il ne s'occupe même pas de l'enfant après son départ. Il ne fait rien. Alors ça, c'est le plus dur à vivre. Je ne sais pas pour les autres personnes, mais moi, personnellement, moi, je ne vais pas me marier comme ça.
Tu redoutes la polygamie ?
Oui, comme tout le monde d'ailleurs, mais je me dis que si un jour je rencontre un homme, mais ça dépendra de l'homme, s'il est vraiment, qu'il peut vraiment s'occuper de moi et d'une autre femme par exemple, et que j'aime vraiment, je peux accepter ça. Mais c'est vrai que la polygamie, ça, c'est un peu dur. Ça se fait parce que c'est autorisé dans l'islam. Alors, nous, les femmes, on est obligées d'accepter. Si on aime son mari, là, on est obligé d'accepter la polygamie. S'il va se remarier avec une autre, tu seras obligée d'accepter comme ça. Oui, parce qu'il... Encore là, ils disent que les hommes disent que vous, les femmes, vous êtes nombreux. Alors là, vous êtes obligés d'accepter la polygamie. C'est pas normal, mais on peut rien faire. Hein. Parce que si on savait que quand une femme avec son mari, avant de se marier, s'il savait que son mari allait encore se remarier. C'est sûr qu'elle n'accepterait pas d'être mariée avec lui. C'est sûr. Alors, d'après moi, c'est pas quelque chose d'agréable du tout. Mais bon, on peut rien faire et ça reste comme ça. Parce que si on est marié et le mari veut encore se remarier, parce que là, t'es coincé, là. Tu peux pas se débarrasser de lui facilement. Après, si tu le dis de s'en aller, alors que tu n'as rien, toi, tu restes seul et un autre homme ne peut pas venir t'épouser. Parce que avec les enfants que t'as, alors que ce ne sont pas les siens, ça se passe comme ça. Alors, c'est pas facile du tout. C'est pas facile. être indépendante pour moi, c'est avoir d'abord une maison à moi et du travail. Et comme ça, je suis sûre que le monsieur qui va venir, c'est-à-dire le mari, il sera au moins positif, quoi. Comme ça, avant de me faire du mal, il va réfléchir d'abord à deux fois, parce que il aura peur de me faire souffrir. Et même s'il le fait, c'est comme je viens de dire là, je peux lui dire au revoir. Mais si j'ai pas de maison à moi, que je vis chez lui, il peut me dire ben, écoute, tout est chez moi, hein. Je peux faire ce que je veux, hein. Et alors, comme on dit souvent, apprendre à laisser. Tu restes ou tu t'en vas. Si ça te plaît pas, ce que je fais ici, tu peux t'en aller. Mais si c'est chez moi, il n'osera pas me dire ça. Ce serait moi qui lui dira ça. Alors, c'est parce que je tiens d'abord à avoir tout ça avant de me marier.
Mais à 32 ans, tu ne subis pas des pressions de ta famille, du voisinage, de tes amis en disant « Enfin, Adia, tu as 32 ans, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas mariée. »
Non, effectivement, ma mère, elle n'est pas satisfaite de mon point de vue. Mais j'ai essayé quand même de lui expliquer la situation. Par contre, les voisines, elles n'osent pas parce que mes voisines sont mariées et ils en subissent les conséquences. Alors là, ils n'oseraient pas me dire ça parce que eux, parfois, elles en parlent que vraiment être mariée, c'est vraiment catastrophe. Et chacun parle, chacun dit ce qu'il vit chez lui avec son mari. Alors, ils ne peuvent pas me dire, ils ne peuvent pas me pousser de faire une chose que je ne veux pas.
On ne te dit pas, mais tu n'es pas une bonne musulmane si tu ne te maries pas?
Non, se marier, ça ne veut pas forcément dire que si je ne me marie pas, c'est que je ne suis pas musulmane. Non, ce n'est pas la question. Être musulman, c'est faire ce qu'il faut, c'est tout.
Ce qui apparaît quand on est ici, c'est qu'il semble qu'il y ait beaucoup de mariages arrangés et peu de mariages d'amour.
Oui, c'est vrai. Les mariages arrangés existent vraiment. Et ça encore, c'est pire, pire. Par exemple, une famille riche, il veut faire marier son fils ou sa fille par... Et notre fille ou bien fils d'une autre famille riche. Et comme ça, ils disent que comme ça, ils peuvent conserver leur richesse. Tu vois? Alors qu'ils se trompent carrément. Car sa famille vient lui demander « Je veux que tu ailles épouser la fille de telle famille. » Parce que, alors là, ils sont obligés de le faire. Ils le font sans l'aimer. Alors après, les conséquences arrivent. Parce que, comme par exemple, le matin, il va au travail, il ne revient que le soir. Mais ici, on sait très bien que on travaille le matin de 7h à midi ou bien de 7h à 14h. Et là, la journée est finie. Alors, un homme qui, par exemple, qui travaille de 7h à 14h, là, la journée est finie. Il rentre chez lui, effectivement. Il mange, puis... Il se fait une petite sieste. Après, il quitte la maison aux environs de 18h, comme ça. Il ne revient qu'à 2h ou 3h du mat. Comme ça, il laisse sa femme seule et s'effondrer. La plupart du temps, ils ont des maîtresses. Et leurs femmes savent tout ça, mais ils ne peuvent rien. Parce que si il dit à son mari, par exemple, une femme dit à son mari, « Oui, j'ai entendu, tu as une maîtresse. » Mais il le dit, « Écoute, ça c'est mon argent. Alors je fais ce que je fais avec mon argent. Je m'en fous de toi complètement. » Ce que je veux dire, c'est qu'il montre vraiment à sa femme que Il ne l'a jamais aimé. S'il a fait ce mariage, c'est parce qu'on lui a demandé de le faire. Et c'est pire. Les mariages d'amour, ça se fait aussi. Mais au début, c'est le paradis. Mais après quelques années, ça devient amer. Oui, c'est ça. Oui.
Mais dans une société telle que celle-ci, aux Comores, où il y a quand même un poids de tradition à respecter, etc. Admettons, c'est une hypothèse, que toi, qui es d'un milieu très pauvre, tu sois aimé par un type qui vient d'une famille riche, et que tu l'aimes aussi. Est-ce qu'un mariage entre deux familles aussi opposées économiquement, c'est possible ?
Oui, c'est possible. Parfois, la famille n'est pas souvent d'accord. Ça veut dire la famille du riche. Mais si le garçon insiste, ça se fait. Ça se fait.
Oui, on a été interrompu par ton frère Atouman qui est malade. Je lui demandais s'il espérait pouvoir se marier. Il me disait que oui, mais il me disait « J'ai pas envie de me marier avec une femme comorienne, je préfère une femme malgache parce que les femmes comoriennes sont des menteuses, sont des sociétés, cela. »
Ce qui veut dire, c'est que aujourd'hui, les femmes ne sont pas comme avant. Au niveau d'habillement, par exemple, ils s'habillent mal, ils s'habillent comme des Européens. Et lui, il n'aimerait pas avoir une femme qui s'habille comme des Européens. Un. Deux, il dit que s'il épouse une femme domonienne, il va lui trahir et tromper avec un autre, sûrement. Et il dit encore que les femmes de Domonien, si tu l'engueules, un mari qui engueule sa femme, à l'époque, la femme n'osait pas répondre à son mari. Alors que maintenant, c'est plus le cas. Si tu engueules ta femme, elle t'engueule aussi. Il n'aimerait sûrement pas ça. Il croit qu'il peut avoir cette femme-là, alors que elle ne peut pas avoir cette femme. Même en Madagascar, elle ne peut pas avoir cette femme.
Quel est son point de vue par rapport à cette façon que tu as de voir les choses et que donc à 32 ans, tu n'es toujours pas marié, pas d'enfant? Qu'en pense-t-il, lui?
Mais il ne peut rien dire parce que même lui, il est plus âgé que moi. Et alors qu'il n'est pas encore marié, il ne peut pas me dire, il ne peut pas me reprocher de ne pas me marier. Parce qu'on est quitte. Ouais, il ne peut pas me dire ça. D'ailleurs, il n'a jamais osé me demander quoi que ce soit concernant.
Adia, lorsque je te téléphonais, je te demandais souvent « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et je t'entends me répondre « Mais tu le sais bien, il n'y a rien à faire ici. »
Ben oui, il n'y a rien à faire ici, hein, parce que je n'ai pas fait l'étude supérieure. Et comme ça, je ne peux pas avoir de travail. Car même pour ceux qui sont diplômés, ils n'ont rien eux aussi. Ils traînent souvent.
Je ne sais plus combien de conversations téléphoniques on a eues. Une autre fois, puisque tu me disais « je n'ai rien à faire », je t'ai suggéré d'écrire des pages. Et tu l'as fait?
Oui, je l'ai fait parce que je trouvais que c'était une bonne idée. Parce que la plupart du temps, je fais rien dans la journée. Je pouvais faire ça. Ça m'aidait pour... Qu'est-ce que je dis là? Comme je passais tout mon temps à écrire, ça me permet de ne pas trop penser à ce que... comment dire? Si par exemple... j'ai quelque chose qui me tracasse. J'écris, ça m'empêche de penser à tous mes problèmes, quoi.
Personnellement, je trouve que ces récits sont assez beaux parce que tu mets en scène, d'une certaine façon, tes observations de la vie autour de toi. Il y a un jeune, il y a un homme marié, il y a un cousin qui est riche. Alors raconte-moi l'histoire de ce petit jeune.
C'est vraiment une histoire triste parce que ce jeune, il est abandonné par... presque abandonné par sa famille. Encore, il est maladif. Après la naissance, son père est venu à la maison et il a dit que non, c'est pas mon fils. Il ne l'a pas reconnu, quoi. Alors, il est resté comme ça, son père, depuis la naissance. Et sa mère, elle s'est mariée avec avec quelqu'un d'autre, quoi. Elle est partie à Mayotte avec lui, sans le bébé. Et avant, sa mère envoyait, parce que le petit est resté avec sa grand-mère et son grand-père maternel. Alors, ce sont eux qui s'occupent de lui depuis la naissance jusqu'à maintenant. Et maintenant, il a 18 ans. Il est resté avec eux. Sa mère aussi, on peut dire aussi qu'il a abandonné son fils parce qu'elle ne fait rien pour lui. Alors qu'il devrait, il pouvait faire quelque chose pour l'aider, mais elle ne fait rien jusqu'à maintenant. Et le petit garçon, il sait tout ça. Et il est, je peux dire que il est très malheureux car il est au courant de tout, que son père l'a abandonné dès la naissance et que sa mère non plus ne s'occupe pas de lui et encore avec sa maladie. Il s'ennuie vraiment et sa maladie dure, comment dire...
Tu dis aussi que... Il faudrait qu'il se fasse soigner à l'extérieur. Mais...
Oui. Ici, aux Comores, les médecins ne peuvent pas le soigner. Alors, la maladie doit être soignée à l'étranger. Mais le problème, c'est que ses grands-parents n'ont pas le moyen de le faire partir à l'étranger pour se faire soigner. Alors qu'il souffre vraiment. C'est triste alors qu'il est trop jeune pour souffrir. Quoi. On peut dire que c'est vraiment injuste. Alors, et comme ça... Il voit les autres enfants de son âge qui sont bien, qui se portent à merveille, alors que lui, il est tout le temps malade, tout le temps à l'hôpital. Il a même dit qu'en terminant ses études, il aimerait bien être médecin pour soigner des gens qui en auront besoin. Il a du retard scolaire, oui. Parce qu'à 18 ans, il est en seconde. Et ce qui fait vraiment mal, c'est que quand il est malade, au lieu de penser à lui, il pense à la famille avant. C'est-à-dire qu'il n'aime pas montrer qu'il a mal. Parce qu'en montrant qu'il a mal, il y a la famille qui se sent aussi mal. Et... Voilà.
Ce qui me frappe, Adia, dans les pages que tu m'as envoyées et que j'ai pu retranscrire, c'est que tu exprimes chaque fois ce qui ou te met en colère ou te révolte. C'est-à-dire, tu évoques les médecins qui ne font pas leur métier convenablement, tu évoques tel homme qui maltraite sa femme. C'est comme si tu voulais exprimer chaque fois un sentiment d'injustice que tu veux faire partager. Pour le résumer, j'ai l'impression que tu ne supportes pas l'injustice.
Ben, je ne sais pas, mais comme Je suis là et je vois tout. Je supporte pas certaines choses qui se produisent, comme par exemple, je suis à côté d'une femme que son mari la maltraite. C'est trop dur à vivre. Et pour moi qui assiste la scène, que pour la femme qui subit tout ça, c'est insupportable, quoi.
Oui, et tu l'exprimes que c'était insupportable. C'est comme si tu t'en rendais malade, toi-même, de ce que tu vois et exprimes et ressens.
Oui, parce que la plupart des hommes qui font ça, ce sont les hommes qui sont bien... Ce sont des hommes qui ont vraiment reçu l'éducation. Alors que je crois que les gens qui ont reçu l'éducation devraient être plus responsables et faire des choses, des bonnes choses, au lieu de faire des choses anormales, quoi. Parce que si eux, ils voient d'autres gens qui font des choses qui n'est pas bien, ils disent que eux, ce monsieur, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ceci, et c'est pas normal, alors qu'il a reçu une éducation. Quelqu'un qui a reçu de l'éducation ne devrait pas faire des choses horribles, quoi. Alors que ce sont eux aussi, ils sont comme ça. Alors, c'est ce qui me rend vraiment malade. Des gens qui savent ce qui ne doit pas se faire, alors qu'il le fait sans pitié, sans réfléchir.
Par ailleurs, je me souviens que quelquefois aussi, toujours par téléphone, parce que nous n'avons eu de conversation que téléphonique, tu m'expliquais que quelquefois il t'arrivait de pleurer en pensant à ton grand frère qui ne fait rien pour vous.
Je crois que s'il fait rien, c'est pas par sa propre volonté. Ici, nous les Comoriens, ce sont les enfants après qui aident leurs parents. Mon grand frère, lui, quand il voulait partir à Mayotte, c'était ma mère qui a payé son voyage pour aller là-bas, pour que là-bas, il peut avoir du travail pour aider la famille, quoi. Alors, par chance, il a eu le travail qu'il voulait. Il s'est marié là-bas. Et des enfants. Et après, sa femme ne voulait pas qu'il aide sa famille comme ça. Bon, c'est ça, quoi.
Et il a 10 enfants.
Ouais, il a 10 enfants. C'est parce qu'il avait 3 femmes.
Qu'est-ce que tu penses de ça? Un type qui... Enfin, un homme qui a 3 femmes, bon, pourquoi pas, puisque ça se fait aux Comores, mais qui n'a pas les moyens financiers d'éduquer ses 10 enfants.
Ben c'est pas raisonnable, quand même. Mais je ne sais pas ce qui se passait dans sa tête. Mais ce que je sais, c'est que avec sa première femme, ils ont eu... quelques difficultés et ils n'ont pas pu rester ensemble longtemps. Ils ont eu 2 filles. Il a épousé encore une autre femme. Ils ont eu 4 filles ensemble. Alors là, il n'a jamais pu avoir un fils. Alors, s'il a épousé une 3e, c'est pour en avoir un fils. Et malheureusement, Il n'a pas eu le fils qu'il voulait, mais il a, c'était encore une fille qu'il avait eue. Alors, avoir trois femmes sans les moyens, ça c'est trop dur. Mais moi, je ne peux pas savoir ce qui le poussait justement de faire ça. Mais de toute façon, ce qui est fait, est fait. Alors, je ne sais plus.
Bon, il se met un peu à pleuvoir. Mais... Mais ta mère, elle connaît ses petits-enfants ?
Elle connaît 4 et pas plus.
Lorsque nous nous sommes rencontrés en 1980, ta famille, donc toi-même, vous habitiez dans une paillote tout près du lycée, à côté des maisons des coopérants.
On a quitté cet endroit pas par plaisir. Ce qu'il y a eu, c'est que on était presque expulsés, si j'ose dire. Car avant, pendant la période d'Ali Swali, une personne ne devrait pas avoir deux ou trois champs pour lui seul. Alors il était obligé de donner, partager ses champs. Et après le régime d'Ali Swali, quand ma mère lui a dit... Bon, maintenant, c'était un cousin à ma mère. Et quand ma mère lui a dit que, bon, maintenant, tu devrais me donner ma part, alors c'est en ce moment-là qu'il a refusé carrément. Il a fait le contraire de ce qu'il avait dit à ma mère à l'époque. Il a dit, non, je ne peux plus faire ça. Alors ma mère lui a demandé au moins... de lui vendre quelques hectares. Il a aussi refusé. Il paraît que ses enfants l'ont obligé de ne pas donner ou vendre ce terrain à ma mère. Alors, comme ça, on n'a pas pu avoir le terrain. Alors que je peux dire que c'était seulement ma mère qui ne voulait pas avoir près d'eux. On occupe une maison et... qui était occupé par des coopérants. Et ça, c'est grâce à un neveu, à mon père. Il était le responsable de ces maisons. C'est lui qui a pu nous faire ce faveur. Parce qu'on est là depuis 94, 95, jusqu'à aujourd'hui.
Vous ne payez pas le loyer ?
Non, on ne paye pas le loyer. Et c'est grâce à lui.
Je voudrais évoquer quelqu'un dont tu parles dans tes pages, qui est ton père, mort en 1996.
J'avoue que c'était une période très difficile pour nous, parce que c'est déjà notre père, mon père, que j'ai perdu le jour de sa mort. D'abord, on ne s'y attendait pas, parce qu'il n'était pas malade. Alors, ce jour-là, il y avait, je peux dire, une inauguration à la maison. On était en train de faire les préparatifs. Il est réveillé le matin, il a pris son bain, il a pris son petit-déj. Il est allé s'allonger sur le canapé au salon pendant que nous, on faisait la préparation. Ma mère m'avait demandé d'aller chercher quelque chose à la cuisine. Et quand j'ai rentré à la cuisine, dans la cuisine, j'ai... comme si quelqu'un m'avait dit de regarder au salon. Et quand j'ai tourné la tête, j'ai vu mon père allongé sur le canapé et sa main était, le bras, oui, balancé. Et quand j'ai vu ça, je trouvais que c'était pas normal. Et je me suis approchée de lui. Et quand je le réveillais, il ne se réveillait pas. Et en ce moment-là, j'ai appelé ma mère. Mais j'ai appelé ma mère avec la voix bas, parce que je ne voulais pas inquiéter ma mère. Quand j'ai appelé ma mère, elle est venue. Mais elle est venue avec une autre femme. Il est venu comme ça. Et quand elle est venue, j'ai dit, je ne sais pas ce qui arrive à mon père. Alors ma mère, déjà, elle était complètement bouleversée. Alors elle a appelé quelqu'un, un monsieur qui était à côté. Et quand ce monsieur est arrivé, il a touché mon père, il a dit... Non, il n'a pas voulu dire ce qui est arrivé. Il a seulement dit qu'il faut le porter jusqu'au lit. Enfin, on a fait ça. Et après, il a pris un drap pour le couvrir de la tête. Et c'est en ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il était déjà mort. Il y avait quelqu'un à côté qui faisait dormir son bébé. Alors, il était là, à côté, qu'il ne se rendait pas compte que quelqu'un mourait. Ça veut dire qu'il mourait en silence. Et mon grand frère, Atouman, n'était pas là. Il était, parce qu'on avait une voiture, il était au garage avec la voiture. Alors on a envoyé quelqu'un pour aller le chercher. Et après, déjà là, on a fait appel aux autres gens. Et Marouf, lui, il était en ville. Mais il paraît que là-bas où il était, il ne se sentait pas bien. Il se disait, eh ben, je ne me sens pas très bien, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ce que j'ai là ne m'a jamais arrivé. Alors là, il s'est rendu au garage pour aller voir Atouman. Et quand il était allé là-bas, et une fois là-bas, on lui a dit que Atouman est parti. Quelqu'un est venu le chercher. Parce qu'il paraît que ton père n'allait pas très bien. Et Marouf, il s'est dit que c'est pas possible. Si mon père n'allait pas très bien, ce serait pas nécessaire d'appeler Atman. Mais c'est sûr qu'il est mort. Après là, il a pris la route pour chez nous. Et sur la route, ils se sont croisés avec Atman. Ils se sont trouvés au cours de chemin. Et il a dit à Atman, mais qu'est-ce qui s'est passé chez moi? Atman lui a dit, mais t'es pas au courant. Mais il dit, mais non, qu'est-ce qui s'est passé? Atman ne voulait pas dire ce qui s'est passé. Et Marouf a insisté, mais Atman n'a voulu rien dire. Alors en ce moment-là, Marouf lui a dit que, qu'est-ce qui se passe? Mon père est mort. Il a dit oui, ça s'est passé comme ça.
Dans les pages que tu m'as envoyées, tu cites une phrase de ton père. « Il ne faut pas se faire trop d'amis. »
Oui, exactement. Il nous disait souvent qu'il ne faut pas se faire trop d'amis parce que, comme a dit le proverbe comorien, c'est lui qui te connaît, c'est aussi lui qui pourra te faire du mal. Parce que, par exemple, si quelqu'un me veut du mal... et que je ne le connais pas, parce que j'ai confiance en lui. Mais une personne que je ne connais pas, je ne peux pas avoir confiance en lui. Alors lui, il ne peut pas me faire du mal. Alors c'est parce que lui, il ne voulait pas. Parce que lui, il n'avait pas beaucoup d'amis. Hein. Parce que chez nous, il allait au travail, et en sortant du travail, il venait à la maison. Ses amis, c'était nous. Oui. Et il était vraiment sérieux, il était vraiment quelqu'un. Il était drôle aussi, il nous faisait rire tout le temps. Et c'était vrai ce qu'il disait. Hein. Ici, ça se passe comme ça. Ce seront tes amis qui te font des choses qu'il ne faut pas. Quoi. Ouais.
Pour terminer avec les pages, je vais lire quatre lignes que tu as écrites. Moi, quand quand je pense à tout ce que je subis, il m'arrive parfois d'être paralysé par un sentiment étrange de peur. Je respire mal et tout à coup la rage et la douleur se mélangent. Une angoisse terrible m'étreint comme un coup de poing. L'attente et l'angoisse me donnent des maux de tête épouvantables.
Et ce que je voulais dire, c'est que quand... c'est quand j'essaye d'avoir une vraie relation avec quelqu'un, mais je dis pas relation avec un homme, non, mais je dis une relation avec des amis ou des voisines. Ben, je fais tout mon possible pour que cette amitié grandisse ou bien, oui. Alors que eux, ils font le contraire de ce que je fais moi. Alors j'avoue que ça me fait vraiment mal de savoir que dans des amitiés comme telles, c'est moi qui fais tout pour stabiliser cette relation. Alors que ça ne devrait pas se passer comme ça. Voilà.
C'était Adia Donjouan, une réalisation de Jean-Marc Turine, un mixage de Pierre Devalet, une réalisation du côté des ondes soutenue par la RTBF, la SCAM, la SACD et la promotion des lettres de la communauté française.
Retrouvez Par où dire tous les jours de la semaine entre 22 et 23 heures.
Oui.
Oui, oui.
La première.